Hier, maman d'Astamerval. Bonjour. Hier, on a essayé de développer un sujet très complexe et très grand dans la halakha à propos de toutes sortes de nouvelles méthodes médicales pour les pauvres personnes qui ont une certaine stérilité et que de notre temps, dans notre génération, Hachem, il a donné beaucoup d'intelligence à la médecine pour essayer d'avancer et de quand même avoir des enfants. Donc, on a vu les problèmes qui ont été relevés dans les poskim. Quelles choses sont peut-être possibles à faire dans certains cas et quelles choses sont interdites. On va essayer juste de résumer vite fait ce qu'on a vu déjà hier. Et aujourd'hui, on va voir aussi une autre sorte de méthode et encore quelques détails que j'ai trouvés dans les shoutings de Rav Hozner à ce propos-là. On a vu hier deux sortes principales qu'on appelle le IAC et le IVF. Et on a vu que la différence principale qu'il y a entre les deux, c'est que où se fait le début de la grossesse. Dans le IAC, en fait, c'est que on recueille du mari et en général, c'est quand le problème il est chez le mari, on recueille du mari, on essaye d'améliorer et de trier ce qu'il faut trier pour pouvoir par la suite remettre chez la femme. Et puis, à partir de ce moment-là, la grossesse se fait de manière normale, mis à part le fait qu'il y a un médecin qui est entre les deux et qui a participé, entre guillemets, à cette grossesse. Dans le cas du IVF, c'est un peu plus complexe. C'est parce qu'on recueille du mari et de la femme. Et c'est que quand on a remarqué que ça a attrapé, que ça a pris dans le laboratoire, alors à ce moment-là, on va continuer. En fait, la grossesse, elle a commencé dans le laboratoire et à partir de ce moment-là, on va remettre tout ce mélange, on va le redéposer chez la femme et par la suite, la femme, elle va faire tout le reste de la grossesse et la naissance. On a vu qu'il y a plusieurs problèmes qui ont été relevés dans les postes. Le premier problème, c'est bien sûr le problème de Zera Levatala et on a expliqué au nom du Grot Moshe qu'il y a deux problèmes principaux dans le Zera Levatala. Il y a un problème de lotin af, c'est une question c'est une sorte d'adultère qui a été interdit dans la Torah, et c'est la raison pour laquelle, avant la possibilité que nous donne le Grot Moshe, les Chachamim ont fait une racha à propos de lotin af, que c'est pas que vraiment un adultère, ça peut être un adultère qui se fait tout seul, à travers ces Zera Levatala, et il y a un autre problème dans cette avéra, c'est le problème de manque de Piria Verivia. Alors, le deuxième problème, quand on parle ici que il est en train on va recueillir le sperme justement pour qu'il puisse avoir des enfants, il n'y a pas forcément le problème de Piria Verivia, mais il restera quand même le premier problème qui va être résolu par le Higrot Moshe qui dira que la manière dans laquelle on va recueillir le sperme du mari, c'est la seule possibilité, c'est ou bien de retirer directement de son corps sans le faire sortir de manière normale, qui n'est pas tout le temps évident de manière médicale, mais la possibilité qui a été plus tard retenue dans les post-kim, dans la majorité des post-kim, c'est que il va avoir des rapports normaux avec sa femme et par contre il va mettre un recueilleur, une sorte de sachet spécial que le laboratoire va lui donner et qui va recueillir ce sperme en préférant qu'on fasse un petit trou dedans pour ne pas que le sperme soit complètement perdu. Le deuxième sujet qui a été ramené dans les postings, c'est la question de base, à savoir qu'est-ce qu'il en est d'un enfant qui a été créé, qui a eu son existence sans avoir de rapport entre le mari et la femme. C'est où le médecin qui a mis la seringue, ou bien dans le cas du IVF. Et en fait, quel est le statut de cette naissance? Et apparemment, la seule preuve que les postimes ont réussi à trouver quelque chose qui ressemblait dans le chat, c'est l'histoire de la mésaventure de la femme qui a eu une grossesse lorsqu'elle est rentrée dans un bassin. Et ce qui ressort des postimes, apparemment, c'est que cet enfant n'est pas considéré comme un mamzer, parce que mamzer, c'est que quand il y a eu un rapport interdit entre la deuxième personne et cette femme, et ce qui n'est pas le cas ici. Et que le père de cet enfant est considéré quand même le père qui a déposé le sperme là-bas dans le bassin. Donc, dans notre cas, quand on va revenir dans le cas de ces méthodes de médicales. Alors, on pourrait peut-être dire que dans ce cas-là, le père est considéré, malgré qu'il n'y a pas eu de rapport pour, c'est une grossesse qui a eu sans rapport, c'est quand même considéré que le père, il est le père, et donc il a peut-être fait aussi la mitzvah de payer avec Rivka. Et le troisième sujet qui a été relevé, qu'on a ramené hier, c'est, il y a toutes sortes de sujets par la suite, bien sûr, il y a des problèmes de faire ces choses-là pendant Shabbat. Et aussi, est-ce que le médecin a le droit de faire, de remettre ce mélange ou ce crème qui a été amélioré, de le remettre chez la femme pendant le moment où elle n'a pas fait le mikvé, elle a encore nida. Ça, c'est aussi une discussion dans les poskim, à savoir est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas. Il y a un grand sujet aussi que les poskim ont eu très peur. C'est toutes sortes de problèmes qu'il y ait une erreur. Donc, on a déjà vu hier que tout ça, dans tous ces cas-là, on parle que quand on a recueilli du mari et de la femme. On parle pas qu'il y a eu, on parle pas du tout d'un cas où il y a eu un mélange extérieur. Ça, c'est quelque chose qui apparemment a été complètement interdit par les poskim. Et les poskim, ils parlent très très difficilement, très contre cette chose-là. Ils parlent que c'est possible que cet enfant, il est même considéré mamzer, malgré qu'il n'y a pas eu de rapport entre quelqu'un d'extérieur. Mais quand même, cet enfant, c'est un enfant qui a été mélangé entre une femme qui est chétiche et quelqu'un extérieur. Et il y a bien sûr le problème que ça peut causer plus tard quand cet enfant, il risque de se marier avec sa demi-sœur. Et ça, c'est quelque chose que les poskim disent qu'il faut faire à cause de ça, très très attention, d'être bien suivi, de prendre un laboratoire qui est extrêmement sérieux. Et c'est pas des risques. C'est pas des choses qui sont en l'air. Il y a de temps en temps des histoires qui sont publiées. Certaines sont vraies, d'autres pas forcément. Mais, par exemple, il y a quelques années, une histoire qui a été publiée en Amérique par une femme, une pauvre femme, Chassida, qui a accouché deux enfants, des jumeaux, qui étaient des Noirs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très très attention. Il y a quand même certaines horreurs qui est arrivée avec ça. Aujourd'hui, on va avancer avec ce sujet. Il y a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle pondekaït, c'est-à-dire il y a deux sortes. En fait, hier on a parlé du cas où on a recueilli du mari et que ensuite on a remis chez la femme. Donc il y a le mari et la femme, et on a dit que dans un cas où on recueille d'un mari extérieur, c'est quelque chose qui est interdit, de la même manière que la même chose dans la même idée. Il y a dans certains cas quand le problème il est chez la femme. Quand la femme, elle n'a pas suffisamment de, il y a des œufs, il y a quelque chose qui s'appelle de l'ovocyte. C'est les œufs, les particules qui permettent de commencer la grossesse. Donc peut-être que la femme, elle peut tenir une grossesse, mais elle manque de ces particules qui causent le début de la grossesse. Et dans ce cas-là, il y a certaines fois les médecins qui proposent de recevoir un don d'ovocytes d'une femme extérieure. Ça aussi, c'est quelque chose qui cause des grands problèmes dans la halakha, qui sont, d'après beaucoup, insurmontables. Il y a bien sûr tous les problèmes du IVF qu'on a vu, et mis à part ça, il y a aussi les problèmes des mélanges qu'on a vu dans le cas où on prend de quelqu'un d'extérieur. Donc, ça peut causer des mariages interdits. Et il y a là-dessus une grande question dans les poskim, une grande marque dans les poskim jusqu'au poskim d'aujourd'hui, parce que on n'arrive pas à déterminer qui est la mère. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que d'un côté, il y a la mère génétique qui a donné les œufs, et d'un autre côté, il y a la mère qui a fait la grossesse, qui a fait grandir cet enfant chez elle, et qui l'a accouché. Alors, est-ce que d'après la Torah, la mère, c'est la mère génétique, la mère qui a donné toute de manière génétique, en fait, les médecins ils disent que cet enfant, il va ressembler à la mère donneuse. Donc, il y a la mère donneuse et la mère porteuse. La mère donneuse, à 99%, cet enfant, il va ressembler à cette mère. Donc, de manière génétique, il va ressembler à la mère donneuse. Et d'un autre côté, la mère porteuse, c'est quand même elle qui a donné la grossesse et qui a donné la naissance. Alors, qui on considère comme la mère? Il y a une grande marque locale dans les post-team. Certains diront que c'est la mère donneuse, parce qu'ils diront que le principal, c'est la génétique. Génétiquement, cet enfant, il va ressembler à la mère donneuse. Donc, c'est la mère donneuse qui va être considérée comme la mère. Donc, si par exemple c'est une goya, cet enfant sera un goy, etc. D'autres poskim diront que c'est la mère porteuse, parce que au fait, ils disent que quelque chose, ils disent qu'un organe qui a été détaché d'une personne, il n'a plus du tout de rapport avec cette personne. Par exemple, quelqu'un, il a reçu une greffe d'un rein. Alors, bien sûr que ce rein-là, ça y est, il fait partie de cette personne et il n'est pas considéré que maintenant il y a un certain pourcentage de l'autre personne chez lui. Là aussi, cette femme qui a reçu des particules de ses ovocytes, elle a reçu d'une femme extérieure, alors ça fait partie d'elle. Et puisque ça a été complètement détaché, ça a été détaché de la première femme, ça n'a plus de rapport avec elle et c'est maintenant, ça fait partie de la femme porteuse qui, elle, va être considérée comme la mère. Ça, c'est le deuxième avis. Un troisième avis, il dira que c'est considéré que cet enfant n'a pas de mère. C'est considéré qu'il n'a pas de mère. Sa mère, c'est un laboratoire, il n'y a rien du tout. La mère donneuse ne peut pas être considérée comme la mère parce que c'est des organes qui ont été détachés, comme on a dit. La mère porteuse non plus, c'est-à-dire en fait, ils sont d'accord avec les deux, mais ils sont d'accord avec les deux qu'aucun d'entre eux ne peut être la mère. Et la mère porteuse, c'est considéré que comme une couveuse, elle n'a rien fait du tout. Et donc, elle n'est pas considérée comme la mère, elle n'a pas donné génétiquement ses données génétiques à l'enfant. Et il y a une quatrième chita dans le poskim qui dira carrément que c'est un enfant qui a deux mères. Donc on a toutes les possibilités, ou la mère donneuse, ou la mère porteuse, ou c'est un enfant qui n'a pas de mère, ou c'est un enfant qui a deux mères. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer dans les poskim. C'est la raison pour laquelle on va, en général, on ne va pas permettre cette chose-là. Il y a des preuves dans tous les sens. Par exemple, il y a une preuve qui dira que on voit qu'une femme qui était enceinte, qui était goya, elle s'est convertie au judaïsme, elle a fait le mikvé. L'enfant qui se trouve chez elle, il est considéré comme quand il va naître déjà comme un juif. Et donc ça peut nous donner peut-être une preuve que le principal dans la Torah, c'est la grossesse et l'accouchement. Et qu'un enfant, en fait, qui va sortir d'un ventre juif, c'est un enfant qui est juif. Certains vont repousser cette preuve. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de masar au matin là-dessus dans les poskim, dans tous les sens. Donc, c'est la raison, en tout cas, pour laquelle que c'est très difficile à savoir qui est la mère, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas forcément permettre cette chose-là parce que ça peut faire des grands mélanges et ça touche, en fait, dans le ADN du clan d'Israël. D'essayer de faire des mélanges, de faire toutes sortes de problèmes comme ça, c'est des choses que Hachem il aime pas du tout. Et donc dira le Rav Osner, ceux qui font qui sont dans cette grande détresse, dans ce grand Nissayon, ils feront beaucoup d'exilot, ils auront d'ailleurs une bracha de Rav Osner que Hachem va exaucer leur exilot. Donc encore quelques détails que dira Rav Osner. Il dira que bien sûr toutes ces choses-là, donc mis à part le fait qu'il faut bien sûr demander à un Rav et être suivi d'un Rav compétent, il ne faut pas se précipiter. En général, les médecins, ils ont une tendance que, directement, au bout de 2 ans, 3 ans, que les parents attendent, de les envoyer à faire toutes sortes de choses de ce genre. Alors d'abord, il dira à leur revenir, on ne va pas se précipiter. Il faut carrément, certains diront qu'on va attendre même 10 ans, comme on a vu dans la Gemara. C'est qu'au bout de 10 ans qu'on va commencer à faire ces choses-là, à moins que avant les 10 ans, on a déjà des indications qui sont très claires, comme quoi il y a un problème. Et donc, il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir des enfants. Et il y aura un autre sujet qui va être relevé dans les, tu vois, de Rav Osner. C'est est-ce que on va permettre cette chose-là que dans un cas de Piria Verivia, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore un garçon et une fille, ou bien même quelqu'un qui a déjà un garçon et une fille, mais qui est intéressé d'avoir d'autres enfants. Dans ce cas-là, on va pas forcément permettre toutes ces choses-là. C'est chaque cas, il faudra demander à un Rav. Il y a toutes sortes de halakhot qui peuvent ressortir de ces sujets-là. Par exemple, une dernière halakha, quand dans le laboratoire, on a recueilli le sperme et on l'a trié comme on a déjà vu, est-ce que finalement, ou bien dans le cas du IVF, quand on a fait le mélange et on a vu que ça a bien pris, et qu'on a intéressé de remettre maintenant dans le vagin de la femme, est-ce qu'on a le droit de maintenant de jeter le reste? Ou bien ça aussi, c'est considéré comme une sorte de zera levatala ou pas? Ça aussi, c'est quelque chose que Rav Avner va traiter. Il y a encore beaucoup de sujets. Il y a les problèmes de Shabbat, les problèmes de Mida et toutes sortes d'autres problèmes. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui est très, très, très grand, très vaste et très important. J'ai oublié de dire qu'il y a bien sûr le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la femme, elle peut commencer la grossesse, son problème, il est par la suite. Elle n'arrive pas à tenir une grossesse jusqu'au 9e mois. Alors, dans ce cas-là, les médecins, ils proposent le cas contraire, c'est-à-dire que la grossesse commence de manière génétique normale entre le mari et la femme, et puis par la suite, on fait déplacer cette grossesse chez quelqu'un d'autre qui va s'appeler la pondécaïte, et c'est elle qui va en fait inviter, ce sera la mère porteuse, c'est elle qui va inviter la grossesse. Et ici, en fait, il y aura la même requête, mais ce sera exactement le contraire. Ceux qui disent que la mère porteuse, c'est elle la mère, donc ce sera elle la mère. Et ceux qui disent que c'est la mère donneuse qui est la mère, donc c'est le couple en fait qui ont cet enfant qui sera le leur. Donc ce sera exactement la même arloquette et la même question en fait. Et il y aura bien sûr ceux qui diront qu'on ne peut pas, on ne peut pas du tout faire ces choses-là. Et ceux qui permettront, ils essaieront de décider est-ce qu'on va utiliser, bien sûr, on va utiliser une femme qui n'est pas mariée pour ne pas se rendre dans le problème de Echetish. Dans ce mélange, donc une femme qui ne sera pas mariée et une juive, etc. Donc il y a pas mal de détails là-dessus et il y aura bien sûr la majorité des poskim qui continueront à dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire du tout et que c'est interdit.